Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. On le surnomme le président de tout ce qui renforce son contrôle sur le parti, sur l'armée, sur l'appareil d'État, sur l'économie, sur les finances, sur l'énergie, sur les réformes et bien évidemment sur Internet et les médias. En un peu plus de 3 ans, Xi Jinping, le président de la Chine, a construit à sa main un système de pouvoir absolu, assorti d'un culte de la personnalité jamais observé depuis Mao Tse-tung. 50 ans tout juste après la révolution culturelle, où va la Chine de Xi ? Renforcement de la censure, lancement d'une nouvelle campagne idéologique pour, je cite, « renforcer la ligne marxiste », est-ce un grand bond en avant ou un vrai saut en arrière ? Jusqu'où la lutte contre la corruption explique-t-elle un processus de purge permanent ? Le ralentissement de la deuxième économie du monde affecte évidemment toute la planète, mais jusqu'à quel point fragilise-t-il le régime ? La stratégie militaire et diplomatique du président chinois illustre sa volonté d'hégémonie, en tout cas sur la région Asie-Pacifique. Veut-il aussi imposer sa vision d'un nouvel ordre mondial ? Ce sont toutes ces questions que nous allons explorer grâce à vous. François Godemont, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le programme Asie et Chine du Conseil européen des relations internationales. Vous êtes professeur à l'école doctorale de Sciences Po et chercheur associé à l'Asia Centre que vous avez fondé. Ali Sackman, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, responsable des activités Chine à l'Institut français des relations internationales. Jean-François Huchet, vous êtes professeur des universités à l'INALCO, Économie et Société des mondes chinois contemporains, et par téléphone avec nous depuis Hong Kong, et je l'en remercie, Séverine Arsène. Vous êtes chercheur au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine. François Godemont, vous avez publié sur le site du Conseil européen des relations internationales un papier que vous avez intitulé, j'imagine, en hommage à Simon Leys, le grand sinologue belge disparu. Et ce papier, vous l'avez intitulé « Les habits neufs du président Xi », que l'on a vu, effectivement, il y a une semaine,
oui,
tout à coup, en uniforme, en treillis de l'armée, assis au milieu des hauts gradés, j'imagine.
Assis devant eux, sur une estrade.
Devant eux sur une estrade.
Plus précis.
Et c'est donc un titre de plus pour lui. Le titre, si j'ai bien lu, commandant en chef du centre commandement conjoint de l'armée populaire de libération. Il faut quand même rappeler que cette armée compte 2,3 millions de membres. Qu'est-ce que cela veut dire, cette mise en scène d'un Xi généralissime ?
D'abord, bien sûr, une étape supplémentaire dans la personnalisation du pouvoir. Et de ce point de vue-là, Xi Jinping va au-delà de tous ses prédécesseurs. C'est même étonnant. Car même si Mao, de facto, avait un ascendant absolu sur l'armée, il ne s'est jamais prénommé commandant en chef. Le prédécesseur immédiat de Xi Jinping, Hu Jintao, avait renoncé à l'uniforme. D'autres l'ont porté.
On avait vu Deng Xiaoping en uniforme.
On avait vu, bien sûr, Deng Xiaoping, qui d'ailleurs a été commissaire politique d'un corps d'armée pendant la guerre dite de libération. Et Jiang Zemin aussi apparaissait en uniforme. Mais l'association de ça et du terme commandant en chef, le fait que ce ne soit pas un uniforme d'apparat, si vous voulez, mais l'uniforme, ce qu'on appellerait, nous, la tenue léopard, indique que s'y revendique la responsabilité des opérations de l'armée. Or, songez d'un point de vue international à ces dernières années. Souvent, on avait une sorte de capacité de déni du principal dirigeant. On avait expérimenté un avion espion le jour où Hu Jintao recevait le secrétaire d'État américain à la Défense, mais il n'était peut-être pas au courant. Xi Jinping lui-même est allé en Inde pendant que l'APL venait chatouiller l'armée indienne dans la zone de contrôle entre les deux pays. Et on disait, peut-être n'était-il pas au courant, c'est un développement local. Là, on est en pleine phase d'assertivité chinoise en mer de Chine. Pendant que Xi Jinping était à Washington et qu'il rencontrait le président Obama, on installait des missiles anti-navires dans une île, sur une île de mer de Chine du Sud. On testait un missile à tête nucléaire multiple et on commençait le bétonnage de l'îlot qui est contesté avec les Philippines. Et bien, tout ça, en portant cet uniforme, il le revendique. Ce qu'il dit à la face du monde, c'est « ne vous y trompez pas, c'est moi ».
C'est moi le chef, mais donc cela veut dire aussi qu'il porterait directement la responsabilité du moindre accro.
Et oui, c'est effectivement le revers, puisque à partir du moment où vous revendiquez, si vous reculez dans l'opinion intérieure qui est très chatouilleuse, qui est très nationaliste, on dira vous avez perdu la face.
En même temps, il a, semble-t-il, réorganisé l'armée de façon tout à fait radicale, enfin en remaniant les structures des trois armes.
Il y a seulement 6 mois. On entendait encore en Asie, au Japon, à Singapour, l'idée qu'il avait des obstacles importants dans l'armée, que c'était pas si facile que ça pour lui. Les deux anciens, il y a peut-être eu des obstacles, mais les deux anciens plus haut gradés de l'armée sont l'un mort après avoir été arrêté sur son lit d'hôpital, l'autre passé en procès dans des conditions humiliantes.
Donc les deux plus hauts gradés.
Les deux plus hauts gradés qui étaient les vice-présidents de la commission des affaires militaires sous le prédécesseur immédiat de Xi Jinping. C'est quand même pas rien. Et avec des accusations de type corruption, mœurs, etc. Enfin, on leur a vraiment rien épargné. Xi Jinping réorganise l'armée, effectivement, mais là-dedans, il y a un aspect important, c'est qu'il casse des régions militaires qui existaient depuis 50 ans. Et il faut savoir que les officiers, ils faisaient leur carrière dans ces régions militaires. Mmh. C'est les solidarités, c'est comme ça que se construisait l'esprit de corps de l'armée. Ils cassent tout ça. J'ai du mal à voir, dans ce qui reste, si vous voulez, où serait la capacité d'opposition de l'armée. Il en reste peut-être une seule, qu'on cite quelquefois, c'est un peu comme dans le Japon des années 20 et des années 30, des jeunes turcs nationalistes.
Voilà,
des officiers plus jeunes, très professionnels, absolument pas liés à toute cette historique, et qui, eux, pourraient pousser, si vous voulez. Mais c'est une supposition.
Politiquement, est-ce que cela veut dire qu'à travers Xi, c'est le parti qui prend complètement l'ascendant sur l'armée, alors que...
Non. Pour moi, non.
C'est Xi lui-même.
Car le parti était au-dessus de l'armée, mais justement, ne se confondait pas avec elle. C'est pour ça qu'il y avait l'institution des commissaires politiques, par exemple. Et je n'exclus pas que Xi Jinping, et d'autres auront chacun leur opinion, puisse avoir une ou deux déconvenues du côté de ses collègues récemment. Car ce terme de commandant en chef arrive à un moment où un autre terme s'efface. Début de l'année 2016, on a brusquement vu qualifier Xi Jinping de dirigeant principal. Un terme qu'on employait depuis la mort de Mao quelquefois, le terme « les dirigeants principaux ». Mais les dirigeants principaux et le noyau dirigeant et le dirigeant qui est le noyau, ce n'est pas la même chose, si vous voulez. C'est la
pénologie. C'est vrai que pour vous, sinologue, vous passez un temps fou à étudier les nuances des signes, c'est le cas de le dire.
Si vous viviez au sein d'une famille de 15 personnes qui possède la Chine et où tout le monde se dispute, vous feriez très attention aux signes entre ces 15 personnes. C'est ça qu'on étudie, c'est pas du tout des carapaces de tortue, si vous voulez, ou des feuilles de thé. Voilà.
Alice Ekman, vous êtes-vous spécialiste de la Chine au sein de l'IFRI. Donc on a vu Xi Jinping, donc un prince rouge dont le père était un vice-ministre de Mao, lequel père a été, lui, traduit pendant la révolution culturelle victime, pour trahison, etc. Néanmoins, c'est cette aristocratie rouge que Xi incarne. Et on l'a vu pousser très très loin, une méthode qui n'est pas tellement nouvelle, me semble-t-il, dans la Chine contemporaine, qui est la purge. Enfin, c'est d'ailleurs une méthode de tous les partis communistes, tant qu'ils en ont eu les moyens. Comment et pourquoi Xi a-t-il poussé cette méthode aussi loin? On a l'impression que le système de pouvoir est en état de purge permanente.
Alors comment? C'est par l'intermédiaire de la campagne anticorruption, qui apparaît aujourd'hui comme l'outil principal de consolidation du pouvoir de Xi Jinping depuis son arrivée.
Donc une campagne qu'il a lancée,
son arrivée, donc fin 2012, même début 2013, après avoir été nommé à la tête du parti et à la présidence de la République. Alors comme vous le dites, ce n'est pas nouveau. Les campagnes anticorruption ont été lancées, déployées par tous les dirigeants chinois avant Xi Jinping. Mais on note quand même que celle de Xi Jinping, la campagne anticorruption de Xi Jinping, elle apparaît particulièrement étendue, stricte et longue. Alors, étendue, pourquoi ? Parce qu'elle touche l'armée, comme le disait François, elle touche les entreprises d'État, les gouvernements locaux, mais aussi l'ensemble de la fonction publique. Le dernier chiffre dont on dispose aujourd'hui, c'est 336 000 fonctionnaires qui ont été punis uniquement au cours de l'année 2015, c'est-à-dire le nombre le plus élevé des 20 dernières années. Mais aussi plusieurs douzaines de généraux ont été purgés, mais également des dirigeants de grandes entreprises, notamment dans le secteur énergétique. Donc cette campagne est également très stricte. Là, c'est toujours comparativement avec les campagnes précédentes, très stricte dans les délais. Elle a été mise en place extrêmement rapidement. Elle a surpris beaucoup de monde au sein du parti. Du jour au lendemain, de nouvelles règles, de nouvelles méthodes et des enquêtes ont été déployées par la commission de la discipline.
Il faut aussi toujours rappeler, je vous interromps, mais il faut toujours rappeler l'échelle des choses. On dit le parti, mais je crois que le parti compte quoi ? Un adulte sur 13 en Chine, à peu près.
En membres, c'est 85 millions de membres, 86 millions selon les derniers chiffres dont on dispose de membres. Mais ça touche principalement ça touche tous les niveaux. Parce qu'on mène aujourd'hui ce qu'on appelle une chasse aux mouches et aux tigres, c'est-à-dire les cadres et fonctionnaires de tous niveaux.
Donc les mouches, c'est le menu fretin, mais on les...
Oui, le petit fonctionnaire local, parce qu'il y a des différents échelons. On peut être membre, mais pas occuper des fonctions au sein de la fonction publique, au sein du parti. Donc c'est différent.
Mais aujourd'hui, les tigres, ce sont les gros.
Les gros dont on parlait plus tôt, qui sont
ceux dont la chute nuit infiniment aux industries du luxe, qui du coup voient leur chiffre d'affaires en Asie.
En marge. C'est marginal comparé, on va dire, aux effets directs vis-à-vis de cette population, qu'elle est particulièrement stricte, cette campagne. Dans les méthodes, on assiste à des séances de critique et d'autocritique, des séances des campagnes de dénonciation, des visites de prison obligatoires pour dissuader les fonctionnaires d'agir comme leur ancien collègue
actuellement. Et des gens qui disparaissent, il y a des histoires insensées. Il y avait ce patron de l'un des plus grands groupes chinois qui a disparu pendant 3 jours et qui a réapparu.
Oui. Donc c'est strict dans les moyens mis en œuvre. Ils sont multiples, elles se déclinent par des emprisonnements, disparitions de cadres de haut rang, mais aussi dans les moindres détails. Limiter le nombre de plats, des dîners de travail, le nombre de jours des délégations chinoise à l'étranger, en visite à l'étranger, en cadre professionnel, les sports qui sont autorisés par ces fonctionnaires. Donc vous voyez que ça régit aussi la vie d'un grand nombre de personnes en Chine. Et cette campagne est longue, puisque 3 ans après son lancement, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où cela pourra aller. 3 ans après son lancement, donc elle est encore en cours. À mon avis, elle continuera encore à se déployer.
C'est un outil de pouvoir privilégié par...
C'est une manière, aujourd'hui on peut le dire, on a assez d'éléments pour cela, c'est une manière d'instaurer la peur au sein du parti, de la fonction publique. Tout le monde est potentiellement concerné. On assiste aujourd'hui à une augmentation du nombre de suicides, mais aussi de départs à l'étranger de fonctionnaires au cadre du parti. Et ça génère aussi une forme d'immobilisme qui est notée sur le terrain, qu'on observe de plus en plus. Il immobilise notamment au niveau des gouvernements locaux. C'est-à-dire dans le contexte actuel, les chefs municipaux, provinciaux ont peur de prendre des initiatives qui pourraient être mal perçues par les autorités centrales. Et du coup, certains dossiers n'avancent pas. Certains dossiers qui ne sont pas forcément sensibles. Par exemple, les dossiers de coopération, d'investissement d'entreprises étrangères dans certaines provinces restent sur la table et s'empilent dans le contexte de la campagne anticorruption.
Allons maintenant à Hong Kong pour vous rejoindre. Séverine Arsène, je rappelle que vous êtes au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine. Vu de Hong Kong, cette extraordinaire concentration des pouvoirs au niveau du président chinois, comment est-il interprété parmi les chercheurs qui suivent la Chine de plus près que nous ne le faisons d'ici?
Effectivement, c'est une concentration des pouvoirs, une personnalisation également du pouvoir de la part de Xi Jinping, qui inquiète beaucoup les différents observateurs hongkongais, mais aussi donc tous les sinologues qui peuvent passer par Hong Kong, qu'on peut croiser ici. C'est une personnalisation, enfin un renforcement on va dire l'autoritarisme du pouvoir qui s'applique même sur le territoire de Hong Kong, qui pourtant relève d'une juridiction un peu différente, hein. Mm-hmm. On voit ici la liberté de la presse qui est fréquemment attaquée. On voit évidemment la jeunesse hongkongaise qui commence à se préoccuper de ce que va être son avenir dans ce contexte-là. D'où,
oui, et puis on se souvient des grandes manifestations d'il y a quelques mois. Mais sur les médias proprement dits en Chine continentale, on a vu cette tournée tout à fait sidérante du président chinois qui est allé jusqu'à s'asseoir dans le fauteuil du présentateur du journal télévisé chinois, et qui a très nettement, en allant dans l'agence de presse, à la télévision, bien signifié qu'il avait aussi la main sur les médias de masse en Chine.
Oui, tout à fait. Là, il y a vraiment un message clair qui est adressé aux médias officiels, aux médias centraux, à toute la corporation des journalistes dans son ensemble, qui est une demande de loyauté, donc de réaffirmation du fait que les médias doivent être au service du Parti communiste chinois et donc, a fortiori, au service de Xi Jinping lui-même. Que ces médias, on leur demande de diffuser ce que Xi Jinping appelle une culture positive. Donc, bien évidemment, il n'est absolument pas question, dans ce contexte-là, de prononcer la moindre critique vis-à-vis du régime et des politiques menées par le régime de Xi Jinping. Ensuite, l'application de cette philosophie, elle se traduit concrètement par des arrestations, véritablement un certain nombre d'événements qui ont beaucoup marqué. Je pense par exemple à la journaliste Cao Shunli, qui est décédée en mars 2014 en prison, que les autorités ont laissée sans soins médicaux. Donc ça a été vraiment un traumatisme, parce que ça semblait aller encore bien plus loin que les arrestations et les emprisonnements qu'on pouvait constater jusque-là. On a vu également la pratique des aveux télévisés, qui s'est un peu généralisé.
Mais tout ça donne, encore une fois, de vue d'Europe, une impression de retour en arrière, de retour à des pratiques des régimes totalitaires, alors que on avait l'impression que dans une certaine mesure, il y avait un pacte, le contrôle politique restait évidemment prédominant, mais voilà, il y avait une petite marge où la société civile pouvait s'exprimer.
Effectivement, la société civile, les gens qui font partie de toutes ces associations qui s'étaient beaucoup développées dans le courant des années 2000, en fait, dans les années 2000, il y avait une forme d'optimisme très important qui relevait en particulier du fait que les médias, qu'Internet, que les médias interactifs s'étaient beaucoup développés. Donc ça avait vraiment généré une forme d'optimisme au sein de la société civile. Cet optimisme-là, j'avoue qu'il est assez en berne aujourd'hui parce que on attend la fin de ce cycle, mais on ne la voit pas arriver. Bien souvent, le renforcement de l'autoritarisme est assez cyclique, et puis on a des périodes un peu de respiration, d'ouverture, où on peut retrouver à nouveau des opportunités pour exprimer les préoccupations de la société. C'est vrai que depuis quelques années, on attend une nouvelle respiration et on ne la voit pas venir. Et à la place de cela, on voit ressurgir des formes d'affirmation du pouvoir politique qui rappelle étrangement la période maoïste, à vrai dire, donc avec cette personnalisation du pouvoir, ces aveux télévisés, enfin tout un tas de formes qui sont quand même assez baroques.
François Godemans, je rappelle que vous dirigez le programme Asie et Chine à ICFR et que vous enseignez à l'école doctorale de Sciences Po à Paris. Séverine Arsène faisait allusion en fait à Mao Tse-tung et à ce retour apparent à des pratiques évidemment transposées 50 ans plus tard, mais précisément 50 ans après la révolution culturelle, est-ce qu'on assiste à une espèce de virage, sinon à gauche, en tout cas un virage vers une maoïsation du régime ?
C'est un virage, un retour vers le Mao d'avant la révolution culturelle. Parce que pendant la révolution culturelle, Mao est devenu un tyran déchaîné qui, comme le roi Lear, si vous voulez, abattait ses collègues les uns après les autres et pouvait déchaîner une véritable anarchie locale par dépit ou pour manipuler, si vous voulez, les masses. Il faut presque psychanalyser Xi Jinping et quelquefois on a des traces. Voilà quelqu'un qui a été enfant dans l'Éden communiste des années 50 à Zhongnanhai. Dans les années 60. L'ancien président de la République, Yang Shangkun, emmenait les enfants au cinéma manger des glaces. C'est le même qui a fait décapiter certains dissidents et qui a mené d'une main de fer la répression de 89. Et puis, il est tombé du paradis, Xi Jinping. Son père a été proscrit, sa demi-sœur s'est suicidée. Lui, il a été envoyé dans une zone très pauvre. Il le dit lui-même, il a posé, je ne sais plus combien de fois, 7 fois, je crois, sa candidature pour entrer au parti. Dans cette zone très éloignée, faire ses preuves, comme on dit, si vous voulez, et il est revenu. Et il est animé d'un double sentiment. Il n'aime certainement pas Mao. Quand il mène cette campagne anticorruption, d'ailleurs, d'une poigne de fer, si vous voulez, moi, ça me rappelle, excusez-moi, elle est un peu sinologue, le mouvement d'édification socialiste des années 60, le grand rival de Mao, Liu Shaoqi, dont justement, Xi Jinping connaît très bien le fils, le général Liu Yuan, qui joue un rôle. Et Liu Shaoqi, son esprit, c'était « je ne veux voir qu'une tête ». Et le parti va être l'armée, vont être dirigés comme une administration, d'en haut, si vous voulez. C'est ça qu'il est en train de restaurer, plutôt que Mao lui-même. Mais l'ambivalence, c'est que toute cette jeunesse, il a envié ce tyran qui avait ce pouvoir sur les autres. J'ai utilisé, quand j'ai publié en juillet 2013, un texte qui, d'une certaine manière, annonçait la personnalisation du pouvoir de Xi Jinping, une confidence que m'a fait quelqu'un en Chine et qui provenait de Xi Jinping et qui, à propos de cette période juste avant 2012, où ça grenouillait beaucoup, où il allait revenir au pouvoir, mais il ne savait pas dans quelles conditions, il a dit, en parlant de ses collègues, ils veulent me redonner en location une chambre dans l'appartement de la famille, mais moi, je veux tout l'appartement, si vous voulez. Et je pense qu'il y a chez Xi Jinping une envie secrète d'être aussi puissant qu'était cet homme si dangereux qu'il a connu dans sa jeunesse d'abord de près.
Mais en même temps, il dirige une Chine qui est en pleine mutation économique et sociale, et on a l'impression aussi que sa hantise reste l'évolution, la transformation ratée de l'Union soviétique par Gorbatchev, quand Gorbatchev a entrepris de changer de système.
Il l'a dit très explicitement et très clairement. Il a dit, quand Gorbatchev a abattu le système, il ne s'est pas trouvé un homme pour se dresser et pour l'empêcher de le faire. C'était le premier discours qu'il a prononcé, pratiquement une visite dans le sud de la Chine après avoir pris le pouvoir en 2012.
Et donc ça veut dire que l'obsession est celle-là. Comment maîtriser le développement économique et les évolutions sociales qui s'ensuivent ?
Oui, et de surcroît, quand vous avez eu la vie compliquée qu'il a eue, quand vous avez vécu dans ces provinces pauvres pendant la révolution culturelle, quand vous avez ensuite, par exemple, après 2000, dirigé la province du Zhejiang, d'où viennent beaucoup d'immigrés chinois en France qui ont beaucoup de capacités commerciales, l'économie, c'est une pâte à modeler. Vous pouvez lâcher la bride à un tas de gens, des petits commerçants, des entreprises, ce que nous, on appellerait pompeusement une économie de marché. Pour lui, ce sont des choses qui se déroulent à la marge, et vous gardez l'essentiel, c'est-à-dire le pouvoir. Et vous ne voyez pas de contradiction. Vous n'avez pas fait de thèse à l'Université de Chicago, si vous voulez. Vous n'êtes pas un économiste au sens usuel, vous êtes un homme de pouvoir dans l'économie. Et c'est ça qu'il est. Alors, on attendait de lui, quand il arrive au pouvoir, qu'il applique le programme un peu plus libéral de ses collègues réformateurs, qui étaient un peu à l'école de la Banque mondiale, qui avaient écrit des rapports, etc. Lui, il s'en fiche complètement. Il ne voit pas les contradictions. Il les gère par le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on est tellement dérouté par l'évolution de la Chine depuis 2 ans.
Jean-François Huchet, précisément, vous intéressez à l'économie et à l'évolution des sociétés chinoises contemporaines. Ces contradictions que souligne François Godemont, vous, économiste, c'est bien évidemment ce qui vous préoccupe, parce que on voit comment cette extrême personnalisation du pouvoir est assortie d'un tâtonnement, semble-t-il, s'agissant de la gouvernance économique. On a vu la bourse de Shanghai plonger à plusieurs reprises. On a l'impression que l'habileté n'est pas nécessairement sur ce terrain-là, en ce moment.
C'est vrai qu'on attendait, à partir du changement de leadership en 2012, on attendait, comme vient de le dire François Gonnemont, toute une série de changements qui avaient été identifiés déjà très clairement, même avant la crise de 2008, sur la nécessité d'aller de l'avant sur toute une série de mesures, on va dire, plutôt libérales en matière économique. Et puis, il y a aussi la question de l'insertion de la Chine dans le leadership mondial qui nécessite effectivement toute une série de réformes sur la monnaie, sur l'internationalisation de son économie, des entreprises. Et donc, tout ça, normalement, aurait dû provoquer eh bien une nouvelle ouverture. Et c'est ce qu'on attendait, effectivement, en 2013. Elle a d'ailleurs été annoncée dans une partie des documents officiels en 2013. Et on en sent toujours la nécessité, bien sûr, sur toute une série de domaines en matière économique. Mais c'est un peu contraire, j'ai envie de dire, à l'ADN du Parti communiste, qui a toujours eu des leviers extrêmement contrôlés sur l'allocation des ressources, sur le contrôle du crédit, sur le contrôle de la monnaie des entreprises.
On vient de voir que l'autorité de régulation du crédit a reçu pour ordre de ne plus financer les entreprises d'État qui ne sont pas performantes. Il n'est plus question de leur prêter indéfiniment, comme c'était, semble-t-il, la coutume. Donc là, il y a une amorce de réforme, surtout dans des secteurs où il y a de la surproduction, j'imagine, comme le charbon, l'acier. Enfin, on voit qu'il y a des pans entiers de, si j'ose dire, de la vieille économie chinoise qui sont ankylosés.
Oui, et en même temps, il y a toujours eu, de la part du Parti communiste, il y a toujours cette question de la survie du parti et de sa relation qu'elle peut entretenir avec l'économie. C'est quand même un des grands paradoxes, c'est que l'économie de marché, en quelque sorte une sorte de capitalisme très particulier, aura quand même sauvé le Parti communiste à la différence de l'Union soviétique. C'est quand même un des très grands paradoxes du communisme chinois. Donc il y a toujours cette, je dirais, le Parti communiste fait toujours le nécessaire pour essayer d'éviter qu'il y ait une crise d'ordre systémique dans cette économie chinoise. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter un scénario à la Suharto en 98 ou d'autres, hein, puisqu'on le sait, l'économie peut avoir des influences très fortes sur dans le domaine politique.
Mais là, donc, c'est une économie qui ralentit, en tout cas, par rapport au rythme effréné auquel on était accoutumé. Dont le dernier chiffre, c'est quoi? C'est 6,7% d'augmentation du PIB, la croissance la plus faible depuis 2009.
Alors, depuis 2009, les chiffres, on les critique même à un certain moment donné.
Oui, et on ne les croit pas toujours non plus.
Tout à fait. Les statistiques chinoises donnent lieu par moment à quelques approximations. Mais disons que sur cette question de tout ce qui touchait l'industrie lourde, l'industrie de la construction qui a porté l'économie chinoise ces 15 dernières années, il y a la nécessité de restructurer et d'éviter que ces secteurs, en quelque sorte, créent des problèmes trop importants sur le plan du chômage, sur le plan des finances, sur le plan
de... Parce qu'on voit des mouvements sociaux, on voit des grèves, on voit des ouvriers qui réclament des augmentations de salaire.
Alors il y a, comme nous avions eu en 2009, comme nous avions eu avant en 2008, mais là, effectivement, c'est un peu plus concentré dans les provinces où il y avait, par exemple, de l'extraction minière, ou plutôt les provinces du nord-ouest et du nord-est qui sont plus touchées par les crises et par les licenciements. On parle de 2 à 3 millions de personnes qui ont été licenciées. Il y en aurait encore peut-être 2 à 3 millions qui vont être licenciées dans les 3 prochaines années. Donc il y a la nécessité pour le parti de circonscrire un petit peu cette crise, d'où effectivement les directives qui ont été données aux banques de ne plus prêter trop d'argent à ces entreprises qui sont endettées et d'essayer de les faire disparaître du marché. Mais ça ne va pas être facile parce que ce sont quand même des lobbies très très importants qui sont installés à l'intérieur de l'État.
Vous parlez du parti. François Goldman nous a expliqué à quel point Xi Jinping, lui, a une conception du pouvoir qui est d'être au sommet de ce parti. Mais c'est bien son pouvoir à lui. Alice Ekman, cette concentration extrême du pouvoir au niveau du président chinois, on voit que le Premier ministre a en quelque sorte disparu. Et donc, c'est ce qu'expliquait François Goldman dès le début de cette conversation. En fait, cela veut dire aussi que s'il y a un énorme pépin sur le plan économique, c'est bien le président lui-même qui l'incarnera, en quelque sorte, et qui peut, sinon en être tenu pour responsable, en tout cas en être le visage.
Oui, alors le Premier ministre Li Keqiang n'a pas totalement disparu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup moins influent.
C'est vrai, quand on emploie ce terme, il faut faire attention.
Beaucoup moins présent, par exemple, dans les médias officiels que son prédécesseur Wen Jiabao. Et c'est une indication importante. C'est sûr que Xi Jinping a consolidé son pouvoir de manière institutionnelle. On en a un peu parlé jusqu'à présent, mais il a établi créé de nouveaux, on va dire, ce qu'on appelle les groupes dirigeants pour la supervision des réformes économiques, pour les questions
toutes
de sécurité,
sortes de commissions dont il est à chaque fois
de la soie,
le patron
pour la cybersécurité. Donc un portefeuille élargi qui touche forcément qui empiète sur celui du Premier ministre. Alors il y a tout d'abord le premier constat, c'est celui de l'érosion de la direction collégiale qui avait été promue par Deng Xiaoping lors de l'ère de réforme et d'ouverture. Puis une deuxième question qu'on peut se poser, c'est celle en effet du conseil ou de l'aiguillage des experts sur des points précis. Je pense aux questions économiques, par exemple. Les rumeurs, alors ça reste des rumeurs, mais certains conseillers disent ne plus avoir accès à Xi Jinping. Il est toujours en vadrouille à l'étranger, il se déplace énormément sur tous les continents, il est omniprésent, mais il n'écoute plus ou peu autour de lui, notamment les experts des questions économiques, de sécurité, de géopolitique. Et c'est là vraiment que se pose la question, on va dire, de la décision juste, de la décision informée, nuancée. Et on n'a pas la réponse compte tenu de l'opacité de la direction chinoise aujourd'hui, mais c'est une tendance qui se précise.
Cette omniprésence, elle est orchestrée et mise en image avec un culte de la personnalité qu'on n'a franchement plus vu en Chine, et surtout avec les moyens d'aujourd'hui, non seulement du président, mais de son épouse, qui manifestement, générale de l'armée, chanteuse, joue un rôle important aussi dans l'incarnation du couple idéal.
Oui, alors la mise en valeur de la personnalité de Xi Jinping utilise une méthode hybride, à la fois des méthodes traditionnelles, omniprésence dans les médias, slogans, images, chansons, puis aussi l'utilisation très large des nouveaux moyens nouvelles technologies de la communication, d'Internet, parce que tout à l'heure, Séverine en parlait, mais Internet, c'est aussi à la fois une menace, mais aussi une opportunité pour la diffusion de la stratégie de communication de Xi Jinping et du Parti communiste aujourd'hui. Je vois l'émergence, bien sûr, d'un culte de la personnalité, après on pourrait le qualifier, mais il est visible, ne serait-ce que par le nombre d'exemplaires diffusés de livres, du recueil de discours et d'images de Xi Jinping qui est diffusé.
Enfin, ça, on avait le petit livre
Chine,
rouge avant.
Voilà, ben, mais le parallèle est intéressant.
Mais il y a des chansons, il y a la chanson d'amour ou la danse d'amour du couple présidentiel.
Oui, on voit quand même l'émergence d'une forme de patriotisme avec Xi Jinping qui est présenté comme le père de la nation, sa femme comme la mère. On a une communication qui est quand même, on matraque, on va dire, sur Internet, sur les ondes, ce personnage fort qui illustre un concept qui souligne lui-même le renouveau de la nation chinoise. Alors c'est une question c'est un renouveau de long terme. Deux échéances sont martelées par Xi Jinping, 2020 et 2050. Mmh. 2020 pour les 100 ans du Parti communiste chinois, 2050 pour le centenaire, les 101 ans de la création de la République populaire de Chine. Et c'est celui qui l'incarne, donc une Chine forte, une armée forte, c'est des slogans qu'on retrouve régulièrement. Et le père de la nation, avec aussi un confucianisme remis au goût du jour, qui est utilisé à des fins politiques, aussi pour justifier ce paternalisme.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International et comme chaque semaine, vous avez cherché dans la presse de quoi illustrer, en l'occurrence, cette extrême personnalisation du pouvoir en Chine qui fait qu'en aucun cas, le président ne saurait être éclaboussé par quelque scandale que ce soit. Il éclabousse volontiers ceux dont il veut se débarrasser. Mais là, avec la publication des Panama Papers, où beaucoup de Chinois sont impliqués, à commencer, si j'ai bien compris, par son propre beau-frère, là, pas un mot dans les médias chinois.
Oui, c'est un véritable... En fait, ces révélations ont fait l'objet d'un véritable scandale qu'il a fallu effectivement le plus rapidement possible circonscrire parce que elles sont extrêmement embarrassantes. D'abord parce que la Chine est concernée au premier chef, explique le magazine asiatique The Diplomate, puisqu'elle représente avec Hong Kong un tiers de la clientèle de Mossack Fonseca, ce fameux cabinet d'avocats panaméens spécialisé dans le montage de sociétés offshore. Surtout, donc, le nom du beau-frère de Xi Jinping apparaît effectivement dans ces documents. Alors, bien sûr, la famille Xi n'est que la partie émergée de l'iceberg, écrit la journaliste de Vie Diplomate. Dans les fameux documents, on trouve aussi des membres du Politburo, bien des détails sur les biens à l'étranger de la femme de Bo Xilai, cet ancien ponte déchu du régime. Alors, bien sûr, tous ces comptes offshore ne sont pas illégaux. Mais ces techniques permettent de mettre de l'huile dans les rouages du capitalisme moderne chinois avec des caractéristiques communistes, écrit Alexa Olsen. Alexa Olsen, c'est cette journaliste qui a enquêté sur le versant chinois des Panama Papers. La réponse de Pékin a été brutale et immédiate. C'est une réponse, c'est les 3D, rapporte le site en ligne China Digital Times. Détruire, détourner l'attention et se défendre. On a vu le déploiement habituel des directives envoyées aux médias, des sites de recherche bloqués et des contenus détruits, résume le site. Au même moment, des histoires virales n'ayant rien à voir avec les Panama Papers ont été lancées sur les réseaux sociaux, rapporte le site, comme par exemple cette vidéo de l'agression d'une femme dans un hôtel de Pékin qui a déclenché des milliards de pages vues et des millions de commentaires, une façon de distraire l'attention du public chinois. Enfin, le gouvernement a essayé un temps de se défendre en jetant le discrédit sur les fuites, en remettant en cause leur authenticité ou en questionnant les réelles motivations de ses auteurs.
Et en mettant en cause très directement les États-Unis et même le New York Times, qui ne faisait pas partie du consortium des journaux concernés. Séverine Arsène y faisait allusion à Hong Kong. Là, plusieurs journalistes ont subi les foudres du régime.
Mais il faut dire que plusieurs journaux ont pris des risques en révélant ces fuites des Panama Papers. Et c'était le cas du journal Mingpao, qui s'est intéressé aux sociétés écrans installées à Hong Kong. On voit apparaître dans les documents des noms de plusieurs responsables politiques et des hommes d'affaires locaux, comme par exemple Li Ka-shing, une des plus grosses fortunes nazies, où il y a des proches du gouvernement local, tous des proches de Pékin. Mais ces révélations sont accompagnées de pressions donc, sur la presse. Par exemple, le directeur de la rédaction du Mingpao a été mis à la porte, c'était le 20 avril dernier, officiellement pour des raisons économiques, mais selon le site Hong Kong 01, lui aussi partenaire de cette opération des Panama Papers, eh bien ce limogeage est évidemment la conséquence de divergences éditoriales.
Et c'est aussi le moyen de renforcer encore une fois la campagne anticorruption.
Oui, alors que, là je vous cite le South China Morning Post, alors que le scandale des Panama Papers grandit, la Chine cible des comptes offshore en accentuant la répression contre la corruption. C'était le titre donc, de ce quotidien de Hong Kong il y a quelques jours. Le journal précise que la Chine vient donc d'annoncer le lancement de Skynet 2016, c'est-à-dire le deuxième volet d'une vaste campagne de traque des évadés fiscaux et des officiels en fuite à l'étranger lancée il y a un an. Évidemment, le quotidien hongkongais a du mal à ne pas y voir une simple coïncidence. Le lancement de Skynet 2016 tombe en plein dans les révélations des fuites de Panama Papers, souligne-t-il. Mais peut-être s'agit-il là encore d'une campagne de diversion.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
C'est vrai, Arsène, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Merci d'être avec nous par téléphone de Hong Kong. Parlez-nous d'Internet en Chine. J'ai lu quelque part sous la plume d'un expert, nos amis qui sont avec nous aujourd'hui à Paris, que la Chine est devenue en fait un gigantesque intranet parce que une loi, je crois en mars dernier, interdit aux sociétés étrangères de publier du contenu en ligne. Et donc, il y a Certes, il y a plus de 650 millions d'internautes en Chine, mais tout cela fonctionne en vase clos et de façon extraordinairement contrôlée.
Alors oui, la métaphore de l'intranet, pour moi, elle me semble pas tout à fait représenter la réalité de ce que c'est que l'internet chinois, dans le sens où elle ne montre pas l'ambivalence de la connexion de la Chine à l'internet mondial. Le gouvernement chinois veut vraiment tirer parti. Il veut gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire avoir d'un côté tous les bénéfices de l'interconnexion mondiale avec les opportunités économiques, avec la force technologique que ça représente, et minimiser d'un autre côté les risques politiques. Effectivement, ils ont mis en place des systèmes de censure qui ont de nombreuses dimensions, qui sont relativement efficaces, même s'ils ne sont pas parfaitement efficaces. Et puis, effectivement, on a ce type de mesures qui relèvent, à mon avis, non pas de la formation d'un intranet, mais plutôt d'une forme de localisation de l'Internet chinois, avec effectivement récemment cette interdiction des sociétés étrangères de publier en Chine des contenus en ligne, d'autres types d'obligations comme, par exemple, cette proposition de loi sur les noms de domaine qui est sortie tout récemment et qui voudrait donc obliger les sites Internet chinois à enregistrer leur nom de domaine auprès de prestataires chinois exclusivement. Donc on a tout un tas de mesures. Par exemple, l'obligation également de localiser les données de certains types de secteurs, les localiser sur des serveurs en Chine. Donc effectivement, ce type de mesures contribue à faciliter le contrôle des contenus.
Mais en même temps, il y a des trous dans le système, parce que la sophistication technologique est telle et l'accélération. Il y a encore des gens qui arrivent à s'exprimer en Chine et à critiquer le régime.
Bien sûr, la censure de tout ce qui est site internet, blog, forum, de discussion, etc., a toujours été une forme de jeu du chat et de la souris. Ça fonctionne beaucoup par mots-clés pour détecter les conversations qui pourraient être critiques vis-à-vis du régime. Donc on va, voilà, les autorités, ou en fait, en général, c'est la plateforme elle-même qui est obligée de mettre en place un système de surveillance et de censure.
Mais sur les mots-clés, il y a beaucoup d'imagination, là, parmi les internautes chinois.
Voilà, tout à fait. Donc les internautes, connaissant ce fonctionnement, vont inventer de nouveaux termes pour désigner leurs dirigeants, pour les désigner de manière critique, sarcastique, ironique, etc. Ils vont utiliser des métaphores, des jeux de mots. Donc ils ont toujours une certaine longueur d'avance sur ce système de censure. Puis il y a aussi la dimension qui est que la contestation, elle émerge de tous les aspects de la vie quotidienne des Chinois. Elle émerge des difficultés à respirer l'air dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, donc des problèmes d'environnement, des problèmes de santé. Elle peut émerger de problèmes d'éducation ou de simplement le constat du niveau de corruption d'un officiel local. Tout ça, ce sont autant de choses qui peuvent générer à un moment donné de la contestation, mais on ne peut jamais savoir à l'avance quel va être le sujet ou quel va être le nom de l'officiel local, quel va être l'événement en particulier qui va faire émerger une contestation. Donc il est impossible pour les autorités de prévoir et ils auront toujours une longueur de retard par rapport à l'émergence des différents mouvements sociaux en ligne.
Séverine Arsène, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Jean-François Huchet, je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'INALCO. Cette immersion dans la cyber-économie, c'est aussi, semble-t-il, une priorité imprimée par Xi Jinping, et cela fait partie aussi d'une stratégie économique, à la fois pour promouvoir des grandes entreprises chinoises qui sont mieux protégées de la concurrence, puisqu'en gros, les GAFA ont beaucoup de mal à pénétrer sur le marché chinois. Et en même temps, est-ce que cela dessine une préoccupation d'imposer ces groupes chinois sur le plan international?
Alors très clairement, oui. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, on a un feu vert très clair donné aux grands groupes chinois pour aller s'installer à l'étranger. Pour des raisons macroéconomiques, il fallait faire en sorte que les devises qui rentraient et qui étaient... risquer de causer des tensions inflationnistes puisse repartir à l'étranger et être investi. Pendant très longtemps, on a investi dans des bons du Trésor américain. C'était plus suffisant. Il fallait diversifier effectivement ces investissements. D'où les groupes chinois qui aujourd'hui viennent faire leur marché, pas uniquement en Afrique et en Amérique du Sud, mais on les voit aujourd'hui en Europe opérer des rachats très, très importants. Et puis les
mais
firmes
est-ce que
elles-mêmes...
c'est aussi un moyen pour ces entrepreneurs chinois de sortir de l'argent et de se mettre à l'abri de la campagne quand même assez furieuse menée sous prétexte de lutte contre la corruption, contre des intérêts qui pourraient être moins obéissants.
On sait que dans ces investissements chinois à l'étranger, il y a un bon tiers qui transite par des paradis fiscaux, mais il y a beaucoup d'opacité derrière toutes ces opérations, mais on sait très clairement c'est un moyen pour faire sortir de l'argent à l'étranger. Alors il faut voir ensuite, est-ce qu'il s'agit de grands groupes publics où il y a potentiellement un contrôle plus fort opéré par
exemple,
le parti.
Ce groupe chinois qui a pris, je crois, à peu près 14 ou 15% du groupe hôtelier Accor, c'est un groupe d'État ou c'est un entrepreneur privé qui investit massivement.
Alors vous avez aujourd'hui de plus en plus des groupes privés qui sont présents, qui arrivent. On a parlé tout à l'heure des disparitions. Le patron du groupe Fosun qui a disparu. C'est quand même un des plus grands entrepreneurs.
Club Med, c'est l'un des
investisseurs. Tout à fait. Mais vous imaginez en France si tout d'un coup nous avions un patron du CAC 40 d'une entreprise privée qui disparaissait pendant 15 jours sans avoir aucune nouvelle. Donc il y a effectivement de la part aujourd'hui vous avez une diversification des investisseurs. Investissements chinois à l'étranger. Il ne s'agit plus uniquement d'entreprises d'État spécialisées dans l'énergie. Vous avez aujourd'hui la nécessité pour les firmes chinoises d'aller à la fois du côté de la recherche et développement, où ils ne sont pas très forts, et aussi du point de vue d'aller rechercher des circuits commerciaux, d'aller rechercher des marques. C'est comme cela qu'on a racheté Volvo, par exemple, mais vous avez des tas d'entreprises aujourd'hui qui dominent d'un point de vue de la production, mais qui sont des nains d'un point de vue du marketing et de l'image, et donc, mais qui ont beaucoup d'argent et qui viennent racheter des marques aujourd'hui en Europe pour essayer de se positionner et d'augmenter la part qu'elles vont garder dans cette chaîne globale de la valeur ajoutée. Donc on va avoir les Chinois aujourd'hui, ils sont à peu près à 100 milliards de dollars par an. Ils se sont installés comme les plus grands investisseurs aujourd'hui à l'étranger. Ça risque de continuer.
Encouragés donc par le pouvoir, donc par le président. Et on voit aussi des initiatives en matière de diplomatie économique avec la création de cette banque asiatique d'investissement qui a été un succès.
Oui, tout à fait.
Qui a beaucoup irrité Washington, dans le
genre. Oui, si je peux me permettre quand même, je pense qu'il faudrait quand même éviter d'avoir une image du China Incorporated qui serait tout contrôlé par le Parti communiste d'un point de vue économique, j'entends bien. Il y a tout de même derrière ça des entreprises de taille moyenne qui se développent. Alors du point de vue effectivement des initiatives du côté de ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, ce sont effectivement des initiatives qui existaient déjà auparavant, mais qui ont été, on va dire, remises dans un beau paquet cadeau où on essaye de présenter effectivement un plan pour l'avenir et pour cette internationalisation de l'économie chinoise et surtout d'essayer de recycler aussi des devises, mais à la fois un savoir-faire et aussi un surplus de production, notamment dans tout ce qui concerne la construction des infrastructures, le ciment, enfin tout ce qui va avec et qui, justement, il y a d'énormes nécessités en Asie centrale pour où les entreprises chinoises d'État devraient se positionner justement dans les prêts qui vont être accordés pour construire ces infrastructures.
Mais on a constaté aussi à New York, au moment de la signature du traité sur le climat, on le verra au prochain sommet du G20 qui se réunit en septembre en Chine, cette volonté du président Xi d'exister aussi, enfin d'imprimer sa marque au niveau international. Et là, je parle encore une fois sur le plan, disons, économie-environnement.
Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même voir que ce ralentissement économique et l'affaiblissement, on va dire, de toute cette industrie lourde qui était aussi soutenue par toute cette économie du charbon fait en sorte que les objectifs, de toutes les manières, de la Chine en matière d'émissions de CO2 allaient être tenus en 2030 et seront tenus avant 2030, puisque aujourd'hui, c'est une économie qui se développe beaucoup plus rapidement dans les services que dans l'industrie lourde. Et donc, ça donne des marges de manœuvre au président Xi pour justement prendre toute une série de positions que la Chine avait refusées jusqu'à une période assez récente dans toutes ces négociations internationales sur le climat.
Alice Ekman, on arrive déjà presque à la conclusion de cette émission. Les énormes moyens mis en œuvre par la Chine, à la mesure, c'est la deuxième économie du monde, et on voit ce président imbu de son propre pouvoir et désireux d'imprimer sa marque, une marque aussi pour modifier, pour remodeler des règles du jeu international.
Oui, c'est clair. Une ambition de Xi Jinping, c'est restructurer la gouvernance mondiale. C'est une restructuration ambitieuse dans plusieurs domaines, gouvernance financière, gouvernance en matière de sécurité, gouvernance de l'Internet, gouvernance régionale aussi avec l'établissement de nouveaux mécanismes de coopération à l'échelle africaine mais aussi européenne. La Chine, pour faire simple, considère que toutes les étoiles aujourd'hui sont alignées pour une restructuration de la gouvernance mondiale en sa faveur.
Et Dieu sait si la lecture du ciel est importante dans la culture chinoise.
Bon, au-delà de l'anecdote et de la superstition, mais les Chinois considèrent qu'ils font face à une concordance opportune de deux phénomènes. Le premier, c'est l'affaiblissement des institutions de Bretton Woods, la difficulté de réformer certaines de ces institutions, notamment le FMI. Et la deuxième, c'est la montée en puissance de la Chine, qui dispose justement à ce moment-là des capacités, des moyens financiers, de la volonté politique pour restructurer la gouvernance mondiale. Donc il existe une volonté très forte sous Xi Jinping. La Chine veut mener la restructuration de la gouvernance mondiale. Elle veut être le leader qui planifie et oriente cette restructuration. Et elle voit les deux prochaines années comme des années clés pour y parvenir, parce qu'elle, comme vous l'avez dit, elle assure la présidence du G20 cette année, mais aussi la présidence du sommet des BRICS en 2017. Et Xi Jinping, aujourd'hui, appelle à la créativité institutionnelle, mais aussi diplomatique et stratégique. Donc, il est temps pour la Chine de créer de nouvelles institutions. On en verra d'autres après la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Mais Xi Jinping aussi appelle à créer un nouveau type de relation de grande puissance, c'est-à-dire en relation d'égal avec les États-Unis, et enfin un nouveau type de relation internationale. Donc, ne tenons pas compte des normes établies, des institutions, à nous de chambouler tout ça et de restructurer cela à notre avantage.
François Godemans, cette volonté de restructuration, cette volonté d'imposer la stratégie de la Chine, on le voit évidemment à l'œuvre en Asie-Pacifique. C'est d'ailleurs, si j'ose dire, grâce aux Chinois, que l'Australie vient de nous acheter des barracudas. S'il n'y avait pas autant d'ambition chinoise dans cette partie-là de la mer de Chine.
C'est la première région au monde pour les achats d'armes. Et c'est la première région au monde en matière de hausse des dépenses militaires. La Chine a toujours donné l'exemple, mais les autres commencent à suivre, à commencer par l'Inde.
Les échéances politiques maintenant pour Xi Jinping, il y a à l'automne prochain le renouvellement de 5 des 7 membres.
Non, c'est le congrès 2017. C'est le congrès du parti de 2017.
2017.
Qui est une grosse échéance parce que si
automne 2017, donc ouais. C'est bien l'année prochaine.
L'année prochaine, oui, je croyais que vous aviez dit l'automne prochain, pardon.
Oui, oui, excusez-moi, l'automne 2017.
L'automne de l'année prochaine.
Oui, oui.
Et c'est important parce que c'est là qu'il imprime vraiment sa marque au point de vue homme. Parce que là, il est arrivé au sein d'une structure qui était prédisposée à être une direction collective. Et puis il l'a renversé, mais il ne l'a pas encore remplacé. Or, ces hommes-là, pour une bonne part, partent à la retraite. Qui va-t-il choisir ? À Pékin, ce qu'on dit le plus souvent aujourd'hui, c'est que de façon frappante, n'émergent pas des nouveaux dirigeants de la génération d'après. On a un peu l'impression que, là aussi, Xi Jinping garde les cartes en main, qu'il ne joue pas le jeu consistant à valoriser à l'avance tel ou tel dirigeant. On dit que ce qu'il veut, c'est des collaborateurs.
Oui, c'est une expression qu'on a déjà entendue dans d'autres systèmes politiques infiniment plus démocratiques. Néanmoins, quelles sont les failles d'un système aussi personnalisé ?
Alors d'abord, il ne faut pas sous-estimer le mécontentement et l'inquiétude des élites, y compris les experts, y compris les hauts fonctionnaires, les cadres. Mmh. Je dirais que les confidences et les rumeurs vont bon train. Ouais. C'est vraiment quelque chose de frappant pour toute personne qui a un petit peu de familiarité avec la Chine et une montée de l'anxiété, si vous voulez, qui est quand même quelque chose d'important. Ensuite, la Chine n'est plus aussi puissante sur certains plans. Sur le plan financier, elle a quand même quelques accrocs, quelques difficultés. Elle s'est mise à dos beaucoup de gens dans l'environnement asiatique. Elle s'est mise à dos les États-Unis avec une poussée à la confrontation. Dieu seul sait qui sera le président américain dans un an, mais...
Enfin, on commence à avoir une petite idée.
Probablement pas quelqu'un de très favorable à la Chine dans tous les cas de figure. Il aura quand même à affronter ça. Le courant international change. Ce à quoi je ne crois pas, c'est à l'idée que son excès de pouvoir donnerait lieu à une bronca,
à une rébellion,
je crois qu'il a les outils en main et qu'il faut reconnaître de façon lucide que là où tant de sociologues politiques ont cru que la direction politique, ça allait mener à une transition, à une civilisation des règles, à la démocratie, eh ben non, c'était réversible. Et on revient vers des recettes beaucoup plus anciennes de pouvoir personnel et d'autoritarisme.
Merci à vous cinq. Merci à vous, François Godemont. Donc, je rappelle que vous dirigez le programme Asie et Chine au Conseil européen des relations internationales et vous enseignez à l'école doctorale de Sciences Po. Alice Ekman, vous êtes responsable des activités Chine à l'IFRI. Et Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, mettra en ligne, évidemment, un certain nombre de publications de cet institut avec lequel nous avons le plaisir souvent de collaborer. Merci à vous, Jean-François Huchet, professeur des universités à l'INALCO, économie et société des mondes chinois contemporains. Et je remercie aussi, bien sûr, Séverine Arsène, qui était avec nous au téléphone depuis Hong Kong. Séverine, chercheur au Centre de recherche français sur la Chine contemporaine à Hong Kong et rédactrice en chef de Perspectives chinoises. Et merci, comme chaque semaine, bien sûr, à Eric Scholl. À la réalisation aujourd'hui, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Théo Gomard. Meryl Moneghetti va compléter sur notre site, comme à chaque fois, toute une bibliographie nécessaire et utile pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance des mystères de la Chine d'aujourd'hui. Et comme chaque semaine, vous avez maintenant rendez-vous avec Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end.